voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de cette émission spéciale de Tous les cinémas du monde. Spéciale car depuis la pandémie mondiale de coronavirus, nous nous relayons, Elisabeth et moi, chaque semaine pour rendre compte de l'actualité du cinéma. Une actualité forcément différente, faute de sorties de films. Nombre de festivals, à commencer par Cannes, ont été annulés ou reportés. Mais justement, cette semaine, nous nous penchons sur une manifestation à l'aura mondiale qui a décidé de se maintenir contre vents et marées. D'ordinaire, ce rendez-vous de juin est l'un des plus agréables qui soit. Il se tient dans une ville écrin, au bord d'un lac, cerné de montagnes aux neiges éternelles. Ce festival, c'est celui d'Annecy, bien sûr, le Festival international du film d'animation, qui fait la part belle aux productions du monde entier, et donc pas uniquement françaises, américaines ou japonaises. Alors cette année, pas de rendez-vous professionnel au bord du lac, de projections animées et complètes. Le Covid est bien passé par là, mais la manifestation se tient sur Internet depuis lundi dernier et jusqu'au 30 juin. Pour en parler, nous recevons à distance, par téléphone, quatre interlocuteurs. Marcel Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué artistique du Festival d'Annecy et vous nous répondez en duplex de Montréal. Véronique Encrena, bonjour.
Bonjour.
Vous vous dirigez à la branche business, on va dire, du festival. Hein, c'est le MIFA, le marché du film. Et puis, nous avons le plaisir aussi de compter avec nous deux réalisateurs dont les films sont en compétition pour le prix le plus prestigieux, le Cristal du long métrage. Rémi Chaillet, bonjour.
Bonjour.
Vous vous présentez Calamity, 5 ans après Tout en haut du monde, hein, votre premier long métrage qui avait remporté à Annecy le prix du public. Et Ben Stassen, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes le co-réalisateur de Bigfoot Family et vous, vous nous parlez de Belgique, hein, à côté de Bruxelles. Alors chaque année, le Festival d'animation d'Annecy met en ligne une bande-annonce, hein, forcément réalisée en animation, une compilation un peu de tout ce qu'on peut découvrir. 2020 n'échappe pas à la règle, hein, c'est le son que l'on entend sous ma voix. Marcel Jean, Annecy a très vite, en fait, début avril, annoncé évidemment que le festival ne pourrait pas se tenir physiquement compte tenu bien des limitations, hein, évidemment, en cours. Mais très vite aussi, Annecy, le festival, a décidé d'annoncer le maintien d'une édition en ligne. C'était une décision un peu en forme de pari. Est-ce que vous avez dû consulter avant de la prendre les producteurs, les distributeurs, les grands studios, avant de prendre cette décision?
Oui, mais c'est une forme de consultation qui est allée dans les deux sens. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu un mouvement des acteurs de l'industrie vers nous qui nous disait « si vous faites quelque chose en ligne, nous serons derrière vous ». Donc, avant même qu'on leur pose la question, plusieurs des acteurs importants de l'industrie, donc des studios, des distributeurs, des producteurs, nous annonçaient déjà leur volonté qu'Annecy fasse quelque chose. Bien entendu, le rôle que joue Annecy dans l'industrie de l'animation est assez unique, est assez singulier. Donc, on pouvait bien comprendre à quel point ça pouvait compter pour plusieurs de nos partenaires. Ensuite, il a fallu trouver le modèle, donc la configuration. Et là, il y a eu une consultation, je dirais, plus formelle auprès, encore une fois, de producteurs et de distributeurs, et notamment autour des sections télévision, de compétition de télévision et de compétition de long métrage, qui étaient les deux sections les plus complexes au niveau des droits et aussi de la chronologie des médias dans le cas des longs-métrages. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec cette formule hybride qui permettait à des longs-métrages de figurer en compétition en ayant le choix de mettre leur film en entier en ligne ou d'en offrir seulement un extrait conséquent ou un documentaire de présentation. Et ce qui nous autorisait à tenir une compétition de long métrage qui ait du sens. Mais il a fallu vraiment réinventer une formule pour qu'on soit en mesure de jouer le rôle que nous jouons d'habitude dans l'année du cinéma d'animation.
Alors concrètement, pour nos auditeurs, ça veut dire quoi? Comment ça fonctionne? Là, je parle à des auditeurs du monde entier. Ils peuvent, moyennant finance, être festivaliers virtuels d'Annecy?
Absolument. Donc, pour un prix qui est modique, on a fixé à 15 euros l'accréditation au festival. Donc, on a accès où que l'on soit à travers le monde, pour autant qu'on ait une bonne connexion Internet, on a accès à l'ensemble de la programmation. Ce qui veut dire, donc, tous les programmes de compétition de courts-métrages professionnels, de films de fin d'études, tous les work in progress, les making-of, les leçons de cinéma, les previews de films qui sont en cours de production, et la compétition de long-métrage pour laquelle, bon, il y a deux sections compétitives à Annecy en long-métrage, et ces deux sections totalisent 20 long-métrages et 12 de ces 20 longs-métrages sont disponibles dans leur intégralité, ce qui est quand même énorme. Alors, tout cela, on y a accès où que l'on soit. Et c'était l'un de nos défis, parce que pour Véronique, pour Michael Marin, pour moi, qui dirigeons l'événement, il était clair pour nous qu'Annecy n'était pas un festival franco-français et qu'il fallait être en mesure de rejoindre les festivaliers où qu'ils soient. Donc, les discussions autour de du géoblocage, là, du fait de bloquer l'accès au territoire français, pour nous, elles se sont réglées très vite. Il fallait absolument réussir à diffuser, à rendre disponible le contenu de la plateforme partout à travers le monde.
Alors justement, vous parlez de la compétition, les métrages. Je vais donner aussi la parole aux deux réalisateurs qui sont avec nous, peut-être commencer avec vous, Rémi Chaillet. Donc, votre deuxième long métrage, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, figure donc en compétition internationale. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Annecy, sachant que, je le rappelle, hein, votre premier long métrage à Annecy avait remporté il y a 5 ans le prix du public?
Oui, non seulement il avait remporté le prix du public, mais en plus, on avait été à un concours de projet à Annecy en 2008. Et c'est là qu'on avait rencontré notre producteur de Sacrebleu Productions pour Tout en haut du monde. Donc, une partie du film, son histoire a commencé en partie à Annecy. Et c'est un rendez-vous très important dans le monde de l'animation. C'est vraiment le moment où on revoit les collègues qu'on n'a pas revus depuis longtemps, puisque la vie de l'animation, c'est des équipes qui se forment. C'est comme un équipage de bateau. Ça, on se met ensemble pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, pour certains. Et puis des fois, chacun va sa vie, va sur une autre production et on se retrouve souvent une seule fois dans l'année. C'est au Festival d'Annecy pour bon nombre d'entre nous. Et donc la grande famille de l'animation pour nous, et puis c'est l'occasion quand on a un film en compétition de le montrer au public, et c'est vrai qu'on a ce côté festif là qui cette année nous manque beaucoup.
Et pour vous, Ben Stassen, qui est donc dans le film Bigfoot Family figure également en compétition, c'était pour vous important aussi que le film soit présent, même si c'est de façon sur une édition virtuelle?
Oui, bien sûr, on est un peu déçus de ne pas être sur place dans la belle ville d'Annecy, mais pour nous, le timing était incroyable. On termine le film au mois de mai, Festival d'Annecy au mois de juin, et normalement sorti en salle au mois d'août. OK, maintenant avec la pandémie, certaines choses sont remises en question au niveau de la sortie en salle. Mais oui, non, c'était le timing était vraiment impeccable pour nous, parce que quand on termine un film aussi près d'un festival, c'est génial, parce que souvent, il y a une question de timing. On termine le film, le festival n'est que dans 1 an ou 9 mois ou 6 mois plus tard, donc c'est pas toujours évident. Donc pour nous, c'était parfait. Donc malheureusement, on ne sera pas présent physiquement sur place, mais c'est sûr que pouvoir participer au festival digital, c'est vraiment un plus, et on est vraiment très heureux d'en faire partie. Et c'est une première, j'espère que ça va bien se passer à tous les niveaux, mais voilà, on est vraiment enchantés de faire partie de l'aventure.
Et alors, de votre côté, Véronique Encrenard, parce que vous représentez plus l'aspect business, donc en fait, l'aspect des rencontres professionnelles hein, entre vendeurs et acheteurs et endroits. Comment ça se passe, le marché du film, de façon virtuelle également?
C'est vrai que c'est la partie business, mais comme Rémi l'a évoqué, c'est aussi un laboratoire, en fait, hein, le MIFA. C'est de la vente, de l'achat, mais c'est un lieu de coproduction et un lieu où on voit beaucoup de projets se monter et sont présentés. C'est comme ça que naissent beaucoup de succès aussi. Donc nous, le MIFA cette année, quand il a fallu se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce confinement et l'édition en ligne, c'est qu'est-ce qu'on met en avant. D'abord, est-ce qu'on y va et comment on fait et pourquoi. Et ce qui nous a tout de suite poussé à le faire en ligne, ce sont les projets justement qu'on avait sélectionnés parce que on organise des appels à projets sur le long métrage, le court métrage, les expériences numériques et des séries télévision. Et il y avait donc toute une sélection de faits, y compris d'appels à projets qu'on lance à l'étranger. On organise des ateliers. Donc tout ça, c'est un travail énorme. Et arrivé en mars, on ne pouvait pas se dire ça, c'est oublié parce qu'on ne peut pas attendre un an, on ne peut pas les faire attendre un an. Donc c'est vraiment la première chose qui nous a convaincus d'organiser le MIFA en ligne. Et donc pour les mettre en avant, c'était organiser des pitchs vidéo, c'est-à-dire que chaque porteur de projet s'est enregistré en vidéo. Les vidéos sont mises en ligne tout au long de la semaine. Il y a quand même une programmation qui est gardée pour garder une vitalité toute la semaine dans la programmation. Et à l'issue de chaque mise en ligne, les professionnels peuvent prendre des rendez-vous avec les porteurs de projet. Ils ont 24 heures pour se lister comme intéressés par tel ou tel projet. Et le lendemain, les rendez-vous ont lieu en ligne. Voilà, donc ça, c'est un des aspects du marché. Et puis, il y a aussi des rencontres avec les acheteurs. Si on en vient aussi toute la partie vente-achat, on organise pareil des rendez-vous avec des acheteurs, des distributeurs en ligne, en live, avec des questions-réponses possibles ou du face-à-face, hein, en virtuel, dans une salle. Chaque professionnel peut réserver un quart d'heure avec tel ou tel acheteur. Bien sûr, c'est des acheteurs du monde entier. On en a plus de 300 inscrits cette année. Donc, il y a un large choix d'acheteurs à contacter.
Alors là, effectivement, pour faire en sorte que tout ce monde soit donc chacun chez soi avec des fuseaux horaires différents, j'imagine que ça doit être un peu un casse-tête.
En effet, c'est un casse-tête. Alors, on essaye, dans la mesure du possible, d'organiser deux sessions à chaque fois, une le matin pour que les professionnels d'Asie soient connectés plus facilement et l'après-midi pour plutôt Amérique latine, États-Unis. Donc dans la mesure du possible, certains acheteurs d'ailleurs ont accepté de faire deux sessions pour cette raison. Et ça fonctionne très bien. Après, c'est les connexions Internet qui sont aussi un autre souci. Donc, il y a quand même pas mal de répétitions aussi, beaucoup d'explications. Tout ça a pris beaucoup, beaucoup de temps à mettre en place pour expliquer, en effet, à chacun comment ça allait se dérouler.
Et en termes de nombre d'accrédités, est-ce que vous avez été heureusement surprise par la participation des professionnels à cette édition ?
Alors oui, on peut le dire, on est très content. Là, on est sur à peu près 4000 accrédités, hein. on est pratiquement aux 4000 accrédités. On sait qu'il va y en avoir encore parce que l'événement va durer jusqu'au 30 juin. Et l'année dernière, on était à 4100 accrédités. Donc on va être sur les mêmes chiffres qu'une année où l'événement se tient physiquement. Et pour nous, c'est une très bonne surprise, mais on l'a senti très vite pendant la préparation parce que justement on avait un retour des professionnels qui était incroyable, qui nous remerciaient de maintenir un événement en ligne pour justement leur donner cette possibilité de rencontre, de mettre en avant leur contenu, de rencontrer des professionnels parce qu'on ne sait pas quand sera le prochain. Ceux d'avant avaient été supprimés. Donc ils étaient bien seuls, chacun dans leur pays. Et pour eux, c'était formidable en fait, qu'ils puissent garder cet événement, même en ligne. Et ce qui fait qu'ils nous ont... Ils nous ont poussés eux-mêmes à organiser toujours plus de choses, presque trop. Il y a un moment, on a été débordés parce qu'on avait tellement envie de répondre aux demandes qu'on a ajouté des événements et des événements. Alors, on est ravis, mais ça a été un gros travail. Et du coup, on comprend là maintenant le nombre d'accrédités. Hein, les pays sont là, les délégations sont là. Tous les professionnels ont répondu présents et on est ravis de cette issue. Oui.
Ben Stassen, est-ce que justement pour Pont de Marché, est-ce que c'est aussi un enjeu pour Bigfoot Family ou le film qui donc devrait, on l'espère, hein, sortir en salle cet été est déjà vendu dans différents territoires. On sait déjà qu'il a déjà trouvé des distributeurs.
Ben voilà, Bigfoot Family, c'est notre 8e long métrage et on a quand même un bon réseau de distributeurs mondiaux. Tous nos films ont relativement bien marché. Donc, dans le cas de Bigfoot Family, ben, la plupart des territoires sont vendus, mais non, il reste encore quelques territoires à vendre. Donc, en effet, le marché du film d'Annecy était pour nous une opportunité de faire ces derniers ventes dans un bon contexte, parce que quand on monte le film dans un contexte de festival, etc., ben, il y a un certain momentum, une certaine ambiance qui fait que c'est souvent plus propice à conclure les dernières ventes. Mais donc c'était pas crucial parce que comme je dis le film avait déjà été très bien vendu. Maintenant la grosse question, et ça n'a rien à voir avec le festival Nancy, c'est est-ce que le public va répondre présent dans les salles dans ce contexte de confinement et tout. Au départ le film sortait au mois d'août. On a pensé à un moment donné reporter la sortie au mois d'octobre, mais finalement il sort quand même au début août en France, en Belgique et dans quelques territoires. Donc c'est vrai que c'est assez stressant parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment le public va réagir, est-ce que les gens vont retourner au cinéma ou pas, mais voilà quoi.
En tout cas, c'est Bigfoot Family a déjà sans doute déjà sa petite communauté de fans parce que c'est la suite hein, de Bigfoot Junior avec un petit garçon qui est devenu une célébrité et qui compte mettre son statut au service d'une cause qui lui tient à cœur, celle de l'environnement.
Cher docteur Harrison, nous vous écrivons de Rocky Valley en Alaska. Le gouvernement vient d'autoriser la compagnie de forage Extract à puiser du pétrole dans notre magnifique réserve naturelle. Et cela uniquement parce que la compagnie a garanti au gouvernement que leur méthode de forage propre n'aurait aucun impact sur l'environnement. Nous pensons qu'ils mentent et qu'ils mettent en danger tout un écosystème d'une richesse incroyable. Avec votre notoriété, vous pourriez nous aider à révéler au monde entier ce qui se passe ici en ce moment et stopper Extract avant qu'il ne soit trop tard. Signé Pam et Simon. Extract, ces gens-là sont partout. C'est peut-être un signe du destin.
Oh, pitié, ça y est, ça recommence.
Oui, c'est peut-être ça que je suis censé faire. Mettre mon nom au service d'une noble cause. Je dois aller aider ces gens.
Tu veux partir en Alaska? T'es sérieux?
Je sais que je peux les aider à ma manière.
Tu vas pas nous faire ça. T'es à peine revenu et tu veux déjà repartir.
Dis-moi, à quoi ça sert d'être célèbre si j'essaie pas de rendre le monde meilleur?
Ah ouais? Eh ben désolé de te le dire, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Une seule personne, ça suffit pas à changer le monde.
Si, chaque personne compte. Et je vais te le prouver, mon grand.
Et mon avis à moi, t'en fais quoi? Tu décides toujours tout seul.
Je dis ça, je dis rien. Mais moi, j'aurais signé...
Voilà, Ben Stassen, un extrait de votre film Bigfoot Family, un film réalisé avec Jérémy Degruzon, qui est donc en compétition à Annecy. C'est un film en 3D, c'est ça? C'est la spécificité de votre studio?
Tous nos longs métrages ont toujours été en relief, en 3D. Il y a aussi une version 2D disponible parce que toutes les salles ne peuvent pas le sortir en relief. Mais en effet, il a été conçu et créé en 3D.
Donc un film, on va dire, d'aventure pour un public familial. Alors, c'est une économie particulière, hein, celle du cinéma d'animation. Tout à l'heure, vous parliez d'un timing incroyable que vous aviez terminé le film tout récemment et donc Annecy qui se profile, qui s'est maintenu. Ce film-là, par exemple, combien de temps de préparation et combien de personnes pour travailler sur Bigfoot Family?
Nous avons une équipe de 120 personnes à Bruxelles. La production représente un peu plus de 2 ans. Tous nos films ont toujours aussi entre allez, 2 ans, 24, 26, 27, 28 mois, mais aux alentours de 2 ans, avec une équipe quand même relativement restreinte par rapport à nos collègues américains, où là, ils sont 500-600 pendant 3 ans, mais voilà. Donc, je suis très fier du travail que l'équipe accomplit avec dans des conditions pareilles, mais voilà, l'avantage aussi, c'est que nous sommes une relativement petite équipe, mais assez soudée, avec une base d'équipe. On a toujours des gens qui viennent et qui partent, mais quand même une base d'équipe qui est avec nous depuis le tout début. Donc on est, je pense, très efficace et très performant en termes de pouvoir réaliser quand même des projets assez ambitieux avec des budgets. Bah, je peux vous dire, le budget, c'est un peu moins de 20 millions d'euros. Des budgets quand même très raisonnables par rapport à ce que les rouleaux compresseurs américains font. Et malgré tout, on parvient quand même à trouver notre place sur le marché international. Donc, c'est pas évident, mais ça fonctionne.
Marcel Jean, donc vous avez sélectionné, hein, donc entre autres, hein, Bigfoot Family dans la section compétition de long métrage d'Annecy. On comprend en entendant aussi Ben Stassen que tant d'énergie, tant d'équipe pour fabriquer ce film, c'était donc important de maintenir le festival aussi à ce titre-là, de maintenir cette édition, quoi qu'il en coûte. Alors en l'occurrence en numérique. Parce que les énergies, ça prend tellement de temps, en gros, de faire un film d'animation, peut-être plus qu'un film normal.
En fait, il est difficile de dire, de calculer les sommes d'énergie qui sont nécessaires pour réaliser un film. Mais pour nous, ce qui était surtout important, c'est que nous avons le devoir, je pense, de rendre compte de l'état du monde de l'animation. Et c'est un peu comme ça que je vois ma mission, moi, de délégué artistique, c'est-à-dire d'offrir une sorte de polaroïd de l'état de l'animation en juin à chaque année. Et c'est ce qui guide la programmation, par exemple, la sélection. Quand on prend Bigfoot Family et qu'on prend à côté Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, et qu'on ajoute à cela le film d'Andrzej Karjanowski, The Nose or Conspiracy of Mavericks, ce sont des films très différents les uns des autres. Et ce que j'essaie toujours de faire, c'est de représenter l'ensemble des tendances. Puis pour donner un exemple et attraper la balle au bond de ce que disait Ben Stassen tout à l'heure, chaque année, on se rend compte d'un savoir-faire européen qui est grandissant dans le domaine de l'animation 3D, qui est en mesure, je dirais, de j'aime pas beaucoup le mot concurrencer, mais faute de mieux, je vais l'utiliser, de concurrencer ce qui se fait dans les grands studios américains. Et chaque année, donc, parmi les films qui nous sont soumis, on essaie de voir ce qu'il y a de mieux. Et cette année, bon, il était clair pour nous que Bigfoot Family illustrait ce courant-là. Il nous disait, voici ce qu'on peut faire en Europe en termes de réalisation technique, en termes de storytelling, en termes de rythme aussi, parce que ce qui nous a séduit, tout d'abord, l'équipe de sélection dans ce film-là, c'est le rythme mené tambour battant. Bon, dès les premières secondes, on est happé par le film qui ne nous lâchera pas. On sent les deux réalisateurs en parfait contrôle du début à la fin. Alors, ça, pour nous, c'est important de dire, voilà l'un des points importants dans l'état de l'animation européenne actuellement. On illustre autre chose quand on sélectionne un film comme Calamity, où ce que on y voyait, c'était, une recherche, notamment une recherche plastique sur le plan du travail de la couleur, par exemple, qui nous apparaissait dépasser ce qui avait été fait déjà au moment de Tout en haut du monde. Chaque film dans la compétition, pour moi, a un rôle à jouer. Il participe à former une mosaïque. Et cette mosaïque-là, il est important de l'avoir en tête. Il est important de donner la possibilité aux gens du milieu, à la presse, aux cinéphiles, de donner la possibilité de l'appréhender. Parce que la chance que les gens comme moi ont, on a, c'est de presque tout voir.
Justement, vous avez vu vous avez vu combien de films avant de faire votre sélection?
Bah, c'est énorme, parce que si on parle juste du côté long métrage, bon, c'est entre 80 et 90 cette année ce qu'on a pu voir. Dans les courts métrages, c'est quelques milliers, c'est plusieurs centaines de séries télé et de spéciaux télé. Bon, il faut une équipe pour voir tout cela, parce que, bien entendu, moi, je ne vois pas tout. J'ai de la chance, moi, je vois la crème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, déjà, avant que ça se rende jusqu'à moi, donc, écartent ce qui est moins méritant. Mais on a une position absolument privilégiée en tant que sélectionneur de festival, en tant que délégué artistique d'un festival comme Annecy. Et on a cette responsabilité, c'est-à-dire que choisir pour moi, c'est bien entendu, c'est choisir ce que j'aime, c'est choisir ce en quoi je crois, mais c'est aussi donner le portrait le plus juste possible de là où est l'industrie, de là où sont les créateurs à un moment précis. Et ce qui s'est révélé cette année d'une manière très très évidente, c'est l'espèce de presque de préscience des réalisateurs qui arrivaient, on aurait dit, à pressentir le confinement, à pressentir ces ambiances de fin du monde qu'on a presque connues en mars-avril cette année, puisqu'il y a quantité de films comme ça qui nous ont montré des espaces vides, des gens qui allaient vers l'apocalypse ou qui avaient le sentiment de vivre dans un moment d'apocalypse, et le thème de l'écologie est hyper présent dans tous les formats, je dirais.
C'est le thème de l'écologie dont on parlait justement dans Bigfoot Family. Et puisque vous parliez de crème, Marcel Jean, évidemment, il y a aussi Calamity, donc de Rémi Chaillet. Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Et là, c'est un film d'aventure. Et est-ce qu'on peut oser le mot, un western féministe?
Allez, hey, hey, hop, 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 hop.
Martha Jane, c'est quand qu'on arrive?
Bientôt, quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront. Et on se construira chacun une vraie maison.
À vous, les canaris!
Accrochez-vous, les enfants.
Du calme!
Vous avez la jambe et deux côtes cassées.
Qui va conduire le chariot?
Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre.
Ne raconte pas d'âneries, jeune fille.
Ce pantalon?
Bah, c'est pour les chevaux.
Quelle calamité! Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté.
Rémi Chaillet, avec ce film, vous imaginez en fait l'enfance de Calamity Jane, hein, qui était une personnalité de la conquête de l'Ouest américain?
Oui, c'est ça. On est parti du personnage, on imagine comment ce personnage s'est construit. Avec sa spécificité, Calamity Jane, c'était une femme célèbre dans l'Ouest américain qui s'habillait quelquefois en homme, quelquefois en femme, qui passait de l'un à l'autre, qui se déguisait, qui avait un statut complètement particulier puisqu'elle pouvait rentrer dans les saloons comme ça et pousser la porte pour crier pour avoir une bouteille de whisky et raconter ses histoires aux gens qui étaient ici, à un moment où c'était totalement interdit aux femmes, où une femme, il n'était pas question qu'elle se mette un pantalon et voilà. Et donc on imagine, pendant qu'elle fait la route de l'Oregon avec son père, comment ce personnage aurait pu se créer.
Alors déjà, dans Tout en haut du monde, votre premier long métrage, vous mettiez en avant une héroïne. Donc là, de nouveau, une héroïne, on le sait hein, depuis plusieurs années déjà, mais on est vraiment, l'animation est ouverte à tous les sujets. On est vraiment loin de l'image des films d'animation avec des princesses qui attendent leur prince charmant. Hein. Là, c'est vraiment en tout cas dans vos deux films, Rémi Chaillet, on sent que c'est des personnages féminins très forts.
C'est
loin
vrai,
des clichés, quoi.
Moi, on essaie de les dépasser. C'est vrai que j'aime ça. Je vois, moi, Calamity Jane, je le vois comme un film un peu sur le droit à la brusquerie pour les jeunes filles ou pour les femmes. Hein. J'ai l'impression que je pense que l'élégance ne vient pas avec les gènes XX et que les femmes ont le droit d'être brusques. Et Calamity Jane, qui était une enfant, une femme, puisqu'on la connaît plus, on ne connaît rien sur son enfance, mais qui était une femme un peu brusque comme ça, nous a beaucoup amusé. C'est un personnage très attachant, à la fois comme nous avec les scénaristes Fabrice Dopostide et Sandra Tosello, on a commencé à se documenter sur elle. On a fait donc la fresque de toute sa vie et on s'est aperçu à quel point c'était un personnage étonnant, sympathique, généreux, et on a essayé de retranscrire ça pendant son enfance et on s'est beaucoup attaché à notre personnage.
Et alors Marcel Jean parlait d'un traitement des couleurs particulier dans ce film. C'est ce qui vous a aussi beaucoup fait travailler le traitement de comment rendre l'Ouest américain, les différents, je sais pas, teintes d'ocre. Alors je précise hein, pour les auditeurs que moi j'ai eu accès à une sélection du film. J'ai pas pu voir le film en entier. Il sortira cet automne, donc j'ai très envie de le voir. Hein. C'était pas du tout une critique, mais les enjeux, j'imagine, sont tels que le film sera disponible surtout pour les 3 membres du jury.
Ouais, ce qu'on a mis à disposition du public avec Maybe Movie, mes producteurs de Henri Magallon et Claire Lacombe, c'est un petit montage d'extraits du film et du making of, du documentaire de fabrication du film pour rendre un petit peu à Annecy ce qu'ils nous ont donné et permettre au public de découvrir un peu le film sans pour autant mettre le film à disposition, ce qui était pour nous impossible sur le plan, on va dire, commercial. Le film sortira au 14 octobre. Concernant l'aspect artistique, l'aspect coloré du film, on a essayé de pousser un peu plus loin l'expérience qu'on avait fait avec Tout en haut du monde, sachant que le style graphique de sur lequel on travaille, c'est un style sans cerner. Il n'y a pas de trait extérieur au personnage. Il n'y a pas de contour. Et donc, les personnages sont dessinés en surface, ce qui pose des problèmes de fabrication spécifiques, mais ce qu'on a réussi à résoudre. Et là, ça nous permet d'exploser les palettes, parce que le rapport des couleurs entre les paysages qu'on traverse, entre les décors qui sont derrière les personnages et les personnages, ça fait beaucoup plus, l'échange coloré se fait beaucoup plus facilement. Et on peut vraiment aller très loin dans les palettes. On l'avait déjà expérimenté sur Tout en haut du monde. Et là, avec Patrice Suau et l'équipe de décorateurs, on a essayé d'aller plus loin avec des couleurs très saturées, très pop. On cherche à la fois une certaine modernité aussi, et à la fois ça s'inscrit dans une tradition qui va des Namis aux impressionnistes. C'est des gens qui ont beaucoup réfléchi à cette façon d'exprimer la vibration de la couleur à travers des couleurs mises l'une à côté de l'autre, très saturées, ça crée des vibrations, ça crée des effets de couleur. Et à la fois on travaillait à partir sur Photoshop pour autant, mais à partir de pigments, de couleurs qui sont des pigments naturels. Donc on travaillait avec le vert véronèse, le terre de Sienne, et donc il y a un côté un peu tableau dans notre rendu. Mais ça c'est Patrice Suau qui a une expérience de peintre sur le motif. C'est un gars qui prend ses toiles et qui va en Espagne, qui va ici et là pour peindre directement les paysages qu'il voit. Et donc il est revenu avec à utiliser son expérience de peintre sur le motif pour essayer de rendre les sensations. Le défi là-dedans, c'est de rendre l'espace américain, qui est un espace incroyablement large, que nous, en tant qu'Européens, on a du mal à concevoir, tellement c'est énorme. C'est vrai que là, moi, si je prends ma voiture et que je vais à Lille, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y aura pas une maison visible de loin, quoi. Aux États-Unis, et surtout à cette époque-là, les espaces sont gigantesques. On peut marcher pendant des mois, pour aller du Minnesota jusqu'au premier contrefort des Rocky Mountains, on peut marcher pendant des mois, et donc dans une plaine absolument plate. Et voilà, les enjeux artistiques, c'était de rendre cette la force de ces paysages.
Donc effectivement, on a bien compris avec vos deux films, Ben Stassen et vous, Rémi Chaillet, hein, la richesse, ne serait-ce que de la production, on va dire, franco-belge. Mais à Annecy, il y a des films venus de différents pays. Dans cette émission, malheureusement, on ne peut pas tous les citer. Il y a bien évidemment des films venus d'Asie et notamment du Japon, avec en compétition le très attendu Lupin 3. Et puis, il y a des découvertes, vraiment d'autres pépites venues de contrées dont on n'imaginerait pas qu'il y a aussi une possibilité d'animation. On peut citer par exemple dans la section Contre-champ une coproduction égypto-saoudienne, Le Chevalier et la Princesse.
في تلك الأزمنة البعيدة كانت قوافل التجارة بين موانئ الجزيرة العربية وشواطئ المحيط الهندي نشيطة.
بضائع الغرب وصلت!
بضائع الغرب! كل اليمن! الفستق الحلبي! الحرير الدمشقي!
وقد ساعدت سلوكيات التجار العرب على تطوير التجارة وامتزاج الحضارة.
Voilà, Marcel Jean, un extrait du film Le Chevalier et la Princesse, un film venu d'Arabie Saoudite et d'Égypte, hein, donc qui figure dans la section contre-champ du festival d'Annecy. C'est étonnant en fait de découvrir un film d'animation sous cette bannière. Ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même une tradition
En fait, oui, c'est étonnant, mais en même temps, ça l'est de moins en moins et ça le sera de moins en moins dans la mesure où la production se diversifie, l'origine des films se diversifie grandement. Cette année, bon, on a ce film saoudien-égyptien, mais on a aussi un autre film, Jungle Beat, qui nous vient de l'île Maurice, qui est origine d'un studio sud-africain au départ. Alors, ce qu'on constate, nous, constamment, c'est la manière dont les foyers de production se développent et la compétence technologique se développe, elle aussi, un peu partout à travers le monde. Et ça, le festival en rend compte, mais ma collègue Véronique pourra vous en parler, parce que le MIFA, le marché, est extrêmement actif dans sa volonté de développer de nouveaux territoires et de faire une place aux pays qui, d'emblée, donc, n'étaient pas sur la carte des joueurs importants du cinéma d'animation.
Alors justement, je donne la parole à Véronique Ancrena pour le MIFA, effectivement. Ça, c'est aussi un aspect prospectif de votre part?
Oui. Tout à fait, c'est je l'avais évoqué tout à l'heure par rapport aux nombreux projets qu'on présente chaque année, les sélections. Il y a des appels à projets qu'on reçoit. On reçoit les projets à partir de novembre chaque année jusqu'à février. Et là, on a reçu cette année, par exemple, 631 projets qui viennent du monde entier et on en garde 38. Donc, il y a une sélection qui est extrêmement forte et difficile hein, pour les porteurs de projets parce qu'on en a quand même très peu de retenues. Donc ça, c'est différentes catégories du court, du long, de la série et même des expériences numériques, hein, de la VR principalement. Et on a aussi des appels à projets spécifiques dans certains territoires plus difficiles, comme là, vous venez d'en parler avec Marcel, c'est des pays qui n'ont pas encore une tradition, une pratique de l'animation, mais il y a des artistes dans ces pays, des envies d'expression qui peuvent aussi passer par l'animation. Il manque d'écoles, bien sûr, dans ces pays où il n'y a pas ni la tradition ni l'industrie. Et donc nous, on est là aussi pour aller visiter ces pays, visiter les petits studios qui peuvent exister et surtout rencontrer des artistes et voir ce qu'ils ont comme projet. Et on va les accompagner. Et ensuite, on va en sélectionner chaque année sur deux ou trois pays. On en sélectionne un ou deux et on a une catégorie qui s'appelle « Animation du monde » où là, on va présenter ces projets qui viennent de ces pays où il est difficile de faire de l'animation. Donc là, par exemple, « Animation du monde » cette année, on en a du Liban, on en a du Pérou, de Madagascar, l'Équateur, on a la Géorgie, la Jordanie, le Nigeria, voilà, c'est les Philippines, on en a vraiment de tous les pays maintenant.
Je vois qu'en dans les compétitions court-métrage, il y a aussi un court-métrage qui vient de RDC, République démocratique du Congo. Là, vous parliez de Madagascar ou du Nigeria. Ça bouge un peu comme ça sur le continent africain?
Oui, ça bouge. D'ailleurs, on devait cette année célébrer à la fois à Annecy en général, à la fois au festival et au marché, l'animation africaine. Du fait du confinement, c'est reporté en 2021. Donc nous, on faisait écho à la saison Afrique de l'Institut français qui mettait le continent africain à l'honneur. Donc tout, c'était une résonance par rapport à l'animation. Ce sera l'année prochaine. Et on avait donc déjà beaucoup prospecté. On a fait plusieurs appels à projets en Afrique déjà. Hein. Ça fait 3 ans. Ça fait vraiment depuis 2012 qu'on part en Afrique, qu'on va repérer les talents. Qu'on visite plusieurs pays. Et donc là, pour nous, c'était le moment idéal de mettre en avant tout ce qu'on avait découvert en Afrique, les talents, les artistes qui avaient des choses à dire, à exprimer. Donc ce sera pour l'année prochaine. Donc, il nous reste finalement, on a une année de plus pour regrouper tout ça, mais c'est finalement énorme. Tout va très vite en Afrique actuellement. Il y a un dynamisme incroyable, donc il y aura beaucoup de contenu pour l'année prochaine.
Ben Stassen, donc est-ce que vous justement il y a une curiosité de votre part pour regarder, pour voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres contrées? Est-ce que vous aussi vous avez une envie en fait de voir d'autres films d'animation?
Oui, bien sûr, c'est toujours très inspirant de voir ce qu'on fait de par le monde. Et c'est vrai, il y a des choses étonnantes qui se font. En fait, la révolution digitale, le fait qu'on puisse créer maintenant des films d'animation par ordinateur, ben fait que il y a 20-30 ans, tout était centralisé à Londres et surtout à Los Angeles. Maintenant, ben, dans le monde entier, on peut faire des produits de qualité, qu'on soit sur une île du Pacifique ou à Bruxelles ou à Annecy ou peu importe. Donc ça, je trouve ça très excitant parce qu'on voit en effet des films remarquables qui viennent du monde entier. C'est vrai qu'il faut quand même encore des moyens parce que ça ne se fait pas sans moyens. Et là où c'est le défi est encore plus grand, et peut-être pas tellement au niveau de la production, mais plutôt au niveau de la distribution, parce que c'est bien de faire un beau produit quand on vient d'un pays décentralisé. C'est pas toujours évident de trouver preneur et de le faire rentrer dans le marché de distribution. Mais c'est sûr qu'une plateforme, et comme le festival, et comme le marché MIFA d'Annecy, sont des plateformes exceptionnelles à ce niveau-là, parce qu'on se rend compte de ce qui est créé dans le monde entier. Et puis aussi, en tant que professionnel, ben voilà, on se sert aussi de cette plateforme pour recruter, pour pouvoir aller de l'avant pour nos prochaines productions, quoi.
Et vous, Rémi Chaillet, est-ce que aussi vous avez une curiosité, une appétence pour les autres projets? Fatalement, là, cette année, ça ne peut pas se tenir en physique, mais est-ce qu'il y a une petite curiosité pour ce qu'ont fait les autres collègues réalisateurs et réalisatrices?
Bien sûr, c'est vraiment le plaisir d'être à Annecy, c'est vraiment, il réside là, hein. Le plaisir d'aller regarder des courts-métrages avec des formes nouvelles, avec des expérimentations complètement folles. Enfin, le monde du court-métrage en particulier est pour moi quelque chose d'extrêmement riche. Parce que nous, sur les longs métrages, on est obligé de resserrer, on va dire, le côté graphique à quelque chose de relativement mainstream, de façon à ce que le maximum de gens puissent adhérer. Mais en court métrage, ils peuvent se permettre des expérimentations absolument extraordinaires. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'images où les choses qui sortent et les choses possibles deviennent encore plus grandes. Et donc c'est ce que disait Marcel tout à l'heure, c'est le côté polaroid de l'animation au jour J qui est fascinant à Annecy. Ouais.
Et donc sur le site, hein, donc cette année de Annecy Online, on peut aussi découvrir donc des films effectivement très étonnants, des projets qu'on ne voit nulle part ailleurs, comme par exemple Zero Impunity, un documentaire d'impact sur l'utilisation du viol comme arme de guerre et qui mêle enquête journalistique ou performance artistique au Rwanda, Centrafrique ou encore en Ukraine.
وظلت نورا بالسجن 45 يوم أنا رحت لهناك حاولت أبرطلهم بس هم كان بس بدهم جوزي هو سلم نفسه بالمساء أنا قلت له أنا ما بظن رح يطلعوا البنت لأنهم ما بيخافوا الله وما عندهم احترام لأي شيء هي كانت آخر مرة شفته فيها
Dès le début de la révolution syrienne, c'est quelque chose qui est présent, la violence sexuelle envers les enfants. C'est quand même très similaire dans tout le pays, c'est pas juste à Dera que ça s'est passé comme ça. Ça se passe comme ça à Alep, ça se passe comme ça dans tout un tas d'autres villes et de villages en Syrie. Donc il y a quand même des similitudes qui font qu'on On s'imagine qu'il y a en tout cas un système derrière tout ça, puisque c'est quand même très codifié le fait de, si le terroriste, parce que c'est comme ça que le régime appelle ses opposants, si le terroriste que vous cherchez n'est pas là, vous embarquez sa famille, vous vous occupez de ses enfants. Donc, de fait, les ordres qui sont donnés, en tout cas, de vous avez le droit de faire tout ce que vous avez les mains libres pour faire ce que vous voulez, vous embarquez les enfants, forcément, ça encourage à penser qu'effectivement, derrière tout ça, il y a un système, il y a une organisation.
Alors Marcel Jean, ça fait partie aussi des missions d'Annecy que de montrer donc ce type de projet de film, c'est tout à fait étonnant.
Absolument, absolument. On a créé, en fait, en 2019, une section qu'on a nommée Contre-champ, qui est une deuxième section compétitive de long-métrage, précisément pour être en mesure de faire une place de choix pour ce genre de production. Parce que l'une des tendances fortes qu'on remarque depuis quelques années, c'est le développement du documentaire animé. Il y a un renouvellement du documentaire qui passe par l'intégration de l'animation, par l'utilisation de l'animation, et Zéro Impunity appartient très clairement à cette mouvance-là. Pour nous, il est important de montrer que l'animation en soi n'est pas un genre. L'animation, c'est un ensemble de techniques et qui rejoint tous les genres. Et en ce sens, la section contre-champ nous permet de montrer des longs-métrages qui sont réalisés souvent à partir de principes esthétiques à la base qui peuvent être différents, d'objectifs qui sont différents, et souvent dans des cadres budgétaires aussi qui sont plus modestes que ce qu'on va retrouver dans la compétition officielle de longs-métrages. Vous savez, une projection pour un long-métrage en compétition à Annecy, ça se passe dans une très grande salle, bondée, un très grand écran, donc une relation à l'écran qui est assez particulière. Certains films sont peut-être plus fragiles, demandent une relation un peu plus intime entre le spectateur et l'écran. C'est pour cette raison-là qu'on a créé la section contre-champ. De la même manière, en court-métrage, on a créé il y a quelques années une section qui s'appelle Perspective et qui vise, elle aussi, à montrer des films différents, souvent produits justement dans des pays où il n'y a pas d'infrastructure de production ou encore produits par des cinéastes qui sont totalement en marge de ces infrastructures, même quand ils sont dans des pays industrialisés. Et la section la plus anciennes qu'on a créées dans cette optique-là, c'est la section Animation Off Limits, donc qui remonte, elle, à 2014 et qui est consacrée à des films qui sont à la frontière de l'animation, soit qu'ils repoussent cette frontière ou à tout le moins qu'ils interrogent cette frontière. Parce que de plus en plus, il y a des films qu'on voit et on se demande est-ce de l'animation ou pas.
Eh bien, l'avantage, au moins, de cette édition très particulière, cette édition 2020 du Festival d'Annecy, c'est que tout un chacun, en fait, peut y avoir accès de son ordinateur sans avoir à se rendre à Annecy, même si je conseille vivement, quand ce sera de nouveau possible, d'y aller, parce que c'est vraiment vraiment un festival et un écrin magnifique. Merci à tous, merci Marcel Jean, Véronique Ancrona, Rémi Chaillet et Ben Stassen. On découvrira vos films très prochainement en salle. Le Festival d'Annecy se tient donc sur Internet jusqu'au 30 juin, mais les cristaux, les prix seront remis ce samedi 20 juin. On saura qui succédera au magnifique « J'ai perdu mon corps », le lauréat de l'an dernier. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. Merci encore infiniment à Fabien Munieret d'avoir prêté main forte avec toutes ces lignes. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma, pour une émission consacrée justement à la réouverture, enfin, des salles de cinéma en France. D'ici là, bonne semaine à tous. RFI, la